Je viens vous rejoindre dans ce qui est notre deuxième journée de retraite de Lectio Divina. Après avoir pris le temps hier soir de découvrir le thème de cette deuxième journée, Simon-Pierre est le disciple bien-aimé, après avoir pris le temps surtout d'accueillir la parole qui nous est proposée pour l'ensemble de cette journée, après avoir également ce matin pris du temps aussi pour creuser le sens de cette parole, pour l'accueillir à nouveau et pour en déployer la méditation, toujours à la lumière de l'Esprit-Saint, je suis heureux de vous rejoindre ce matin pour partager avec vous quelques réflexions sur ces textes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie de Magdala court et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, l'autre disciple plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre, pourtant il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulés à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Parole du Seigneur. Nous sommes au matin du premier jour de la semaine, et comme le précise saint Jean en ce chapitre 20, si tout commence avec Marie de Magdala qui aperçoit la pierre enlevée du tombeau, il faudra le témoignage des deux disciples, Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait, pour rendre compte de la réalité du tombeau vide, ce premier signe comme en négatif pour le moment de la résurrection du Christ, mais qui avec l'appui des Écritures va être la première occasion de manifester, de la part en tout cas du disciple bien-aimé, la foi en Jésus, victorieux du mal et de la mort, le tombeau qui est le symbole de l'enfermement dans le mal et dans la mort, est désormais vide. Et nous avons cette double attestation de ceux qui ont pu voir et examiner la réalité de ce tombeau vide et donc de cette absence de Jésus du lieu de la mort et de l'enfermement. À partir de ce premier témoignage, notre foi pourra croire en un Jésus ressuscité qui n'est pas seulement celui qui a traversé la mort pour en ressortir vivant, pas seulement celui qui aurait été réanimé en ce monde, mais bien comme celui qui est désormais et pour toujours le vainqueur de toute forme de mort, de mal et d'enfermement. Jésus ressuscité est bien le commencement d'un monde nouveau, ce monde nouveau qui correspond à la créature nouvelle que nous sommes devenus chacun par le baptême. Pour notre journée d'hier, nous nous étions surtout appuyés sur la tradition de saint Luc concernant la manifestation du Christ ressuscité, au travers de ce texte des disciples d'Emmaüs, et puis également son prolongement dans la rencontre de Philippe avec l'eunuque. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la perspective de l'Évangile selon saint Jean, avec la mise en valeur, et c'est une des grandes originalités du quatrième Évangile, non pas seulement la figure de Simon-Pierre ou bien celle du disciple bien-aimé, mais, et je pense que vous avez été sensible à cela dans votre lecture et dans votre méditation de ces textes, le rapprochement de ces deux figures et comment le témoignage du Christ ressuscité est porté précisément par ces deux figures, des figures complémentaires, au parcours contrasté. Au travers de ces textes, nous pouvons voir comment leur tempérament, leurs réactions sont différents, mais deux figures qui sont mises ensemble, deux disciples qui vivent une vraie fraternité et qui peuvent nous faire réfléchir non pas seulement sur une dimension personnelle de la rencontre avec le ressuscité, mais également sur la dimension communautaire, sur la dimension fraternelle du témoignage que nous pouvons porter. Cette rencontre avec Jésus ressuscité garde toujours une dimension éminemment personnelle et vous avez bien pu voir comment Simon-Pierre n'est pas le disciple bien-aimé, le disciple bien-aimé n'est pas Simon-Pierre, chacun a son propre parcours, mais nous percevons aussi combien le témoignage porté est celui de témoins complémentaires les uns des autres et qui finalement témoignent au travers de leur particularité d'une unique expérience du Christ ressuscité et surtout peut-être, pour aller jusqu'au bout de la signification de cette fraternité mise en valeur dans le quatrième évangile entre Simon-Pierre et le disciple bien-aimé, une relation qui est déjà évoquée dès le chapitre 13, également dans la Passion et jusque dans les manifestations du Christ ressuscité. Il faut souligner l'importance décisive d'un terme dans le quatrième évangile, en particulier précisément à partir du chapitre 13, qui est le terme de charité, agapé. Je vous renvoie au tout début du chapitre 13, avec cette introduction très solennelle à toute cette étape de la Passion de Jésus. Avant la fête de la Pâque, écrit saint Jean, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. C'est également dans ce chapitre 13, juste après l'évocation de ce dernier repas de Jésus, dans lequel nous voyons Simon-Pierre et le disciple bien-aimé proches l'un de l'autre, que Jésus donne à ses disciples ce commandement nouveau. « Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, leur dit-il, aimez-vous les uns les autres. » Et il faut repérer le verset qui suit. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À chaque fois, le terme d'amour utilisé, c'est le terme d'agapé, de cet amour dont Jésus a témoigné par le don total de sa vie jusque dans sa mort sur la croix, cet amour qui est le reflet et l'écho de l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, cet amour révélé, manifesté, offert par Jésus, il est celui qui peut aussi unir ses deux disciples dans un même témoignage de cette charité du Christ offerte à tous les hommes. C'est dans ce contexte du chapitre 13 que pour la première fois apparaît dans le quatrième évangile ce personnage qui n'est jamais nommé autrement que par ce titre, un titre superbe mais qui prend tout son sens dans le contexte de cette passion que Jésus est en train de vivre, le disciple bien-aimé. Et dans son titre se trouve ce terme de charité, d'agapé. L'évangile se garde bien de donner son nom, il le mentionne lors de ce dernier repas. Nous retrouverons ce disciple avec Simon-Pierre dans la Passion. Il est celui qui sera au pied de la croix. C'est un des textes complémentaires importants que je vous ai proposé pour le troisième temps de l'Exodivina de cet après-midi. Et puis il est celui qui se retrouvera, nous l'avons vu, avec Simon-Pierre le jour de la manifestation du ressuscité. La tradition chrétienne la plus ancienne a toujours vu dans ce disciple bien-aimé Jean, qui est à la fois l'apôtre, fils de Zébédée et l'évangéliste. Ce n'est pas impossible, surtout que le début des Actes des Apôtres peut nous fournir un indice en ce sens, lorsque au chapitre 3 déjà, et puis au chapitre 4 que nous avons dans la lecture de ce jour, nous voyons ensemble Pierre et Jean porter témoignage du Christ ressuscité. Mais il n'empêche que dans l'Évangile, ce disciple n'est jamais nommé autrement que comme le disciple bien-aimé, très certainement pour que nous puissions y trouver notre place, que nous puissions découvrir comment nous pouvons nous aussi suivre Jésus dans sa passion, pouvoir le contempler dans le don qu'il fait de sa vie sur la croix pour devenir témoin du ressuscité. Notre place est donc celle du disciple bien-aimé, autrement dit, et je reviendrai dans quelques instants, le disciple qui se laisse aimer par le Christ, tel est précisément le vrai sens de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Tel est également le seul et le vrai témoignage que nous pouvons porter du Christ ressuscité. Il est celui qui nous a aimés d'un amour total. Quant à Simon-Pierre, qui est davantage connu dans les récits évangéliques avant même la passion du Christ, nous le trouvons dans ce chapitre 13, comme celui qui voudrait aimer Jésus à sa manière, avec sa générosité humaine, avec tout ce qu'il est capable d'apporter. Il est celui qui voudrait donner sa vie pour Jésus, mais qui, pour le moment, a encore besoin de découvrir à quel point il faut d'abord se laisser aimer. Et ce n'est qu'au chapitre 21, et on peut penser que le témoignage à côté de lui du disciple bien-aimé a pu l'aider. Ce n'est qu'au chapitre 21, à la toute fin du quatrième évangile, que Jésus pourra faire entrer Pierre dans cette dynamique. Nous y reviendrons cet après-midi, lorsque Jésus, rencontrant Pierre, lui dit « M'aimes-tu ?» Et au moins à deux reprises, le thème utilisé est celui de la charité. Nous aurions pu, pour cette retraite de l'Exodivina, choisir une journée sur la figure de Simon-Pierre et une autre journée sur le disciple bien-aimé. Mais nous avons fait le choix de donner toute son importance plutôt au lien qui existe entre ces deux témoins autour de la personne du Christ ressuscité et de son témoignage. C'est en effet comme si l'évangéliste Jean avait compris que pour porter ce témoignage de l'amour de charité que le Christ a vécu pour nous, il fallait non pas un seul disciple, mais bien deux disciples, deux témoins, unis par cette même charité, vivant de cette fraternité, comme si ce témoignage du Christ ressuscité ne pouvait éclater davantage que dans l'expression même d'une charité fraternelle, cette charité fraternelle qui est bien, nous le savons, au cœur de la vie de l'Église, de la vie de chacune de nos communautés et au cœur de chacune de nos existences. Et c'est cette association de ces deux témoins qui peut aussi nous aider à comprendre comment nous pouvons suivre Jésus dans le don qu'il fait de lui-même et jusque dans sa résurrection. Il nous faut avoir certainement cette générosité de Pierre, exprimée dès chapitre 13, celui qui veut aimer Jésus, celui qui a ce grand désir, ce désir est beau et bon, même s'il n'est pas encore ajusté, et souvent notre propre désir de nous donner ne l'est pas non plus. Mais il faut ne pas passer à côté de l'importance de ce désir de vouloir se donner pour Jésus, comme Pierre l'exprime au chapitre 13. Mais nous percevons très rapidement que cette simple générosité ne suffit pas et qu'il n'est pas possible, comme saint Pierre en fait l'amère expérience dans son reniement, de pouvoir aimer Jésus. En tout cas, ce n'est pas possible d'aimer Jésus avant que Jésus lui-même nous aime. Et c'est là où le disciple bien-aimé prend le relais de Simon-Pierre pour nous faire comprendre que la seule manière de pouvoir suivre Jésus dans sa passion et d'être présent au pied de la croix et devant son côté transpercé, ce n'est pas à partir de notre capacité à aimer Jésus, mais c'est à la seule condition que, au contraire, nous nous laissions aimer par Jésus. Le disciple bien-aimé n'est pas d'abord celui qui aime Jésus, mais celui qui d'abord se laisse aimer par Jésus. Et c'est peut-être ce grand mystère qu'il nous faut comprendre, à quel point nous avons besoin d'abord de nous laisser aimer, pour pouvoir ensuite aimer à notre tour. Il nous faut d'abord accueillir cet amour absolument gratuit du Christ, qui ne doit rien à ce que nous pouvons apporter, qui se donne à nous avant même que nous puissions être capables d'aimer. Et c'est précisément, non pas parce que nous serions capables d'aimer, qu'il se donne à nous, en témoignage de charité, mais c'est au contraire parce qu'il se donne à nous, qu'il nous crée en nous cette capacité à aimer du même amour de charité. Je vous propose encore une réflexion pour ce matin, appuyée sur le début des Actes des Apôtres, le chapitre 3 des Actes des Apôtres, et puis le chapitre 4, qui faisait partie déjà de la lecture d'hier soir et de ce matin, où nous voyons Pierre et Jean annoncer Jésus ressuscité et le faire surtout dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres avec une assurance extraordinaire, avec une audace incroyable, surtout lorsqu'on se rappelle que quelques jours auparavant simplement, Pierre, dans la passion de Jésus, n'avait pas été capable de suivre Jésus et l'avait renié à trois reprises. Quel contraste donc entre ces deux moments, le moment de la passion et la faiblesse de Simon-Pierre, et puis cette audace, au contraire, lorsqu'il s'agit de témoigner du ressuscité. Entre les deux, que s'est-il passé? Jésus est ressuscité et il a donné à ses apôtres le don de l'Esprit-Saint. Aussi, cette assurance et cette audace ne viennent pas simplement de leur tempérament ou de leur caractère, mais leur viennent de ce don du Christ ressuscité, de ce don qu'est l'Esprit-Saint, et bien que cet Esprit-Saint nous donne aussi la même audace et la même assurance pour pouvoir, après avoir accueilli la parole du ressuscité, en devenir les témoins pour notre monde. Et il me reste quelques minutes ce matin pour reprendre certains éléments de la pédagogie de la Lectio Divina, plus particulièrement du rythme de notre retraite. Nous sommes donc dans la seconde journée de notre retraite de Lectio Divina, et je pense et j'espère que le rythme de la journée commence à être maintenant bien en place, déjà en tout cas pour la soirée et pour la matinée. J'espère que vous avez bien pu prendre le temps de la méditation. Peut-être avez-vous déjà repéré également comment organiser votre après-midi. Quelques précisions sur cet après-midi. Je vous rappelle, hein, un premier temps, plutôt en début d'après-midi, qui vous permet de passer de la méditation à votre prière de réponse, qui vous permet en quelque sorte de rédiger votre propre psaume personnel en réponse à la parole de Dieu que vous avez reçue. Un temps pour écouter la conférence de cet après-midi, et puis un dernier temps dans l'après-midi pour la prière silencieuse d'adoration, qui est le temps de la contemplation. Vous pouvez aussi prévoir dans votre après-midi un temps, par exemple, surtout si vous en avez l'habitude, un temps pour prier le chapelet. Avec Marie, vous pouvez très bien développer cette forme de prière de réponse en méditant à la fois avec Marie sur la parole qui a été donnée et en exprimant votre propre prière. Vous pouvez aussi, dans l'après-midi, lire les textes complémentaires que je vous donne chaque jour. Hier, c'était une réflexion de Benoît XVI sur la pédagogie de la Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est un texte de saint Éphrem. Ce sont quelques textes qui peuvent accompagner le rythme de cette retraite sans vous distraire, évidemment, de l'accueil de la parole de Dieu. La première journée de retraite de Lectio Divina est toujours un temps de découverte. La deuxième journée, celle dans laquelle nous sommes, est le temps donc de la mise en place du rythme. Et je vous conseille de trouver le rythme qui vous convient et d'essayer de garder le plus possible le même rythme pour les jours qui viennent jusqu'à la fin de notre retraite. Enfin, ne soyez pas ennuyés si dans les quatre temps que vous prenez de Lectio Divina, une ou l'autre de ces étapes vous paraît plus difficile à vivre, moins spontanée, moins naturelle, et vous demande un effort plus grand. Alors surtout dans ces cas-là, ne vous découragez pas. C'est au contraire certainement les points sur lesquels vous pourrez le plus travailler, les points qu'il vous faut encore découvrir. Peut-être est-ce que la lecture est plus difficile ou la méditation, peut-être est-ce la prière de réponse à laquelle vous êtes moins habitué ou alors la prière silencieuse de contemplation. Dites-vous bien que en vous mettant à l'école de l'Esprit-Saint, une retraite comme celle-là peut vous aider à progresser précisément sur les étapes que vous maîtrisez moins bien. Il y a bien là une formation spirituelle, une véritable école d'apprentissage de la vie spirituelle. Alors je vous souhaite une très belle journée de Lectio Divina avec les témoins du Christ ressuscité, avec Simon-Pierre, avec le disciple bien-aimé.